n'avons pas faite. Et nous avons le voyage, car ça, il s'agissait de voyage de tous les élus de la PACA, étaient invités à faire ce voyage. Donc voilà où vous vous placez dans votre gestion et vos assertions auxquelles vous ne me laissez pas répondre. Mais je viens de répondre. Je disais donc, vous êtes parti de 24 millions d'euros en caisse en 2014 pour atteindre aujourd'hui 4 millions de dettes. Vous proposez un nouvel emprunt pour 1 million 100 d'euros. Vous allez atteindre 5 millions d'euros de dettes. Pour quel projet? Quel résultat? Allons un peu plus loin. Vous affichez des emprunts sur les zones économiques également. 1 million 5 pour la croisière, 3 millions pour la ZAC Pan-Europark. Certes, vous espérez que les ventes compenseront, mais certains d'ici se rappellent de la Zande Notre-Dame de Mondragon qui a fini avec un déficit de 1,2 million. Un déficit de 1,2 million. Et là, nous nous sommes fait insulter aussi, que nous ne comprenons rien, que nous étions incapables de faire du développement économique. 1,2 million de déficit sur la Zande de Mondragon. Ces sommes nous conduisent à quasiment 10 millions d'euros d'emprunts contractés ces trois dernières années. Soyons conscients de ces chiffres. Qu'allez-vous laisser au prochain président de la CCRLP? Vous allez laisser un champ de ruines et un endettement, abyssal. Mais sûrement que vous allez nous dire « Je n'en attendais pas moins de vous, vous êtes prévisible ». C'est toujours comme ça que vous défendez vos positions, avec des phrases et des accusations, toujours tellement puériles, qu'effectivement on essaye d'y répondre, mais qu'on s'aperçoit que vous ne changerez jamais, vous vous cachez derrière ce bilan catastrophique, mais c'est les Bolénois, les Lapalussiens, les Mornaciens, les Mondragonais qui payeront vos erreurs, monsieur. Et qui les payent déjà, d'ailleurs.
Monsieur Mossi.
Merci, monsieur le président. Étant donné que c'est un débat, je pense que c'est normal qu'on essaie d'apporter une contribution, ce que je vais en faire cette année. Comme vous tous, je regrette que les dotations globales de fonctionnement de l'État soient en baisse. Pour autant et en même temps, je regrette qu'on n'ait pas réfléchi à des recettes complémentaires et par exemple la compétence pour la distribution de l'eau et l'assainissement qui aurait permis d'augmenter notre dotation globale de fonctionnement, d'autant que nous serons obligés d'acquérir cette compétence en 2026. Le rapport de la Cour des comptes régional, dans sa page 19, en faisait état en relevant qu'on n'était pas éligible à cette bonification de dotation globale de fonctionnement, puisque nous ne répondions pas aux différents articles qui nous auraient permis de l'apercevoir. Et donc, il disait par conséquent, la Chambre constate que la communauté n'exerce pas ses compétences qu'à minima et seulement lorsque ces dernières deviennent obligatoires par la loi. On se plaint du manque de recettes, mais en clair, je viens de démontrer qu'on ne prend pas toujours celles qui s'offrent à nous. Et c'est très bien exposé dans le rapport qui a été soumis par notre président chargé des finances. Dans les pages 7 et 11 du rapport, il est clairement dit qu'on a moins d'attributions parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre des compétences pour prendre des compétences, mais il faudrait quand même se poser un petit peu pour savoir comment on en prend un peu plus. Ce que je regrette aussi, c'est qu'un budget de 30 millions, je siégeais dans une dizaine de conseils d'administration de sociétés différentes, jamais vu un budget de 30 millions être discuté aussi vite, aussi rapidement, avec aussi peu d'explications, aussi peu de débats, alors que c'est de l'argent public. Elle est mise dans une société privée, il y a des bénéfices, il y a des actions, ce qui compte c'est qu'à la fin, on y retrouve nos petits. Mais là, on est dans un fonctionnement d'un service public. Et on a très peu de débats. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le soulevait. Elle disait les charges qui sont injustement justifiées par l'intercommunalité dans le cadre des débats d'orientation budgétaire débat qui, pour ma part, n'a que le nom pour dire que cela a été fait. J'aimerais que M. Perron arrête de marmonner une fois de plus.
Monsieur Perron, s'il vous plaît. Monsieur Mossi, je vous en prie.
Merci, Monsieur Perron.
Non, mais s'il vous plaît, finissez votre propos.
En effet, les postes de recettes et de charges demanderaient plus de concertation, d'explications lors de la présentation des orientations du budget. Pour exemple, où en est-on de l'absentéisme du personnel, avec des chiffres deux fois supérieurs aux chiffres nationaux pour les collectivités territoriales. Hein, j'ai regardé un article du Monde qui pointait tous les absentéismes en France. On est à 2,8 dans l'éducation nationale, et à 5,7 dans les collectivités territoriales. Seuls les hôpitaux font un peu mieux, et dans le privé, le taux d'absentéisme est beaucoup plus bas. Et ce taux d'absentéisme a forcément un effet sur le budget, puisque je rappellerai que le budget du personnel, c'est 6 millions d'euros. 6 millions d'euros sur à peu près 30, ça fait 20%, mais si on retire ce qu'on reverse aux communes, ça fait 37% du budget. Donc c'est dommage de ne pas s'attarder plus longuement sur les postes de personnel. Alors on a le rapport social, certes, mais dans le rapport social, on n'a pas abordé le problème de l'absentéisme. On a les taux, donc c'est quand même intéressant, on peut les comparer avec les autres. Et ce que je me suis aperçu, c'est que ces taux ne s'améliorent pas. C'est-à-dire que le taux d'absentéisme sur les trois dernières années, depuis que je siège dans cette communauté des communes, ne baisse pas. Alors, c'est regrettable pour le budget, mais c'est aussi regrettable pour le mal-être du personnel. Parce qu'on nous dit tout le temps que les risques psychosociaux se traduisent souvent par l'absentéisme. On a un taux d'absentéisme, si on, je crois qu'on rajoute les congés maternité, les accidents de travail, etc., de 17%. Sur un budget de 6 millions, ben, c'est vite calculé. Ça fait pratiquement 1 million d'euros. Si on pouvait réduire l'absentéisme, qui nous permettrait de réduire les coûts de personnel. L'augmentation des taxes ménagères. Avec un volume de déchets non maîtrisé, nous l'avons vu, nous n'arrivons pas à maîtriser nos volumes de déchets qui tous les ans augmentent. Avec des services coûteux, délégués à des entreprises privées, j'en avais parlé, Suez et autres, le débat sur des solutions plus collectives et des nouvelles pratiques n'étant pas abordé ou rarement abordé. Enfin, et pour être bref, concernant le pôle médical intercommunal, où nous déplorons déjà le départ de médecins, des rumeurs s'amplifient concernant les mécontentements et les menaces de départ d'autres médecins, ainsi que des problèmes de secrétariat. Je tiens des médecins du pôle médical. Voilà un an, j'avais abordé le problème d'un contrat nommé Communauté territoriale des professionnels de santé, ainsi que la création de maisons de professionnels de santé à l'image de ce qu'ont fait de nombreuses EPCI du Vaucluse. L'année dernière, c'était, aujourd'hui, c'est 11 sur 14. Il n'y a que 3 EPCI dans le Vaucluse qui n'ont pas de contrats territoriaux. Aujourd'hui, on compte 25 maisons de professionnels de santé. Zéro sur la communauté des communes. Il y a des projets de maisons médicales, mais pour moi, on est à zéro. Il y en a 25 dans le Vaucluse. Tout ça est mis en place en collaboration avec l'ARS. Donc on va me dire que c'est en cours. Je le sais, à une époque, on a voulu se rapprocher du Tricastin. Aujourd'hui, on parle d'autres domaines, mais n'empêche que pour le moment, ce n'est pas fait. Ce que je crains, c'est que le Nord Vaucluse est déjà moins bien loti en nombre de médecins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ARS, puisque les chiffres du Vaucluse, alors PACA est bien loti en médecins par rapport au reste de la France, mais le département du Vaucluse est le département le moins bien loti de PACA, et le canton de Bolène est un des cantons les moins bien lotis du département du Vaucluse. Donc il ne faut pas croire qu'on est bien loti en nombre de médecins. Les banderoles que l'on voit dans certaines communes cherchant des médecins. Et ce que je regrette, et je le dis fortement, c'est que chacun cherche des solutions communales alors qu'il faudrait avoir une solution collective au niveau d'Interco pour l'ensemble de la population du territoire. C'est pas chacun en allant chercher son petit médecin ou faisant sa petite maison médicale qu'on solutionnera le problème médical sur le canton. On le solutionnera collectivement et tous ensemble et pas individuellement. Aussi, je pense que l'on devrait réfléchir à un développement de l'offre médicale sur notre territoire, avec des ambitions communes, et aussi pour développer des services publics, que ce soit en matière de distribution de l'eau, du ramassage des ordures et de bien d'autres sujets. Voilà ma petite contribution, la plus courte possible, Monsieur le Président, parce qu'il y aurait bien à dire sur ce document qui est bien établi par vos services et qui nous permet de savoir un petit peu où en est l'état de notre communauté des communes. Merci Monsieur le Président, merci à tout le monde.
Merci Monsieur Mossi. Y a-t-il d'autres interventions ? Donc sur ce sujet, je vais répondre d'abord sur les questions que vous évoquez, notamment sur la question de la DGF qui diminue et de cette DGF qui ne cesse de diminuer d'ailleurs, et de ce fonds de péréquation que le président Hollande avait voulu bloquer et qui continue d'opérer de grands chamboulements dans nos collectivités, puisque le fonds de péréquation, c'est près de 1,6 à 1,7 millions par an. Simplement pour la communauté de communes Rhône-Lès-Provence, quand on nous annonçait il y a encore 5 ans que ça allait être supprimé, mais on continue à payer dans ce fonds de solidarité pour les communes les communautés de communes qui ont moins de ressources que les nôtres. Sur la question de l'eau et l'assainissement, j'entends ce que vous dites sur la question du travail du législateur, mais je crois que globalement, ce que vous êtes en train de souligner, qu'elle mérite d'être évoquée, mais je pense sur les questions nationales, c'est la question du fonctionnement des communautés de communes en France et des EPCI et des mécanismes financiers qu'il y a entre le bloc local des communes et la communauté de communes. Parce que tous les textes législatifs ont fait en sorte que nous arrivions à ces dérives-là. Sur la question des charges qui sont à la fois sur la question de l'absentéisme que vous évoquez et sur la question des coûts et des coûts liés à la fois au personnel et sur les charges à caractère général. Je m'explique. Le législateur a prévu que d'abord le transfert de la compétence se faisait par le bloc communal et que c'était à l'échelle du bloc communal qu'il était décidé s'ils ont transféré une école, une compétence, etc. Lorsque la commune ne veut pas se séparer d'une compétence, ce qu'on peut comprendre, la compétence reste gérée par la commune et donc il se crée deux intercommunalités de deux niveaux et le président actuel a en plus apporté une facilité à ce que les compétences transférées à l'échelon intercommunal puissent être rétrocédées à la commune, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec deux collectivités, l'intercommunalité et la ville, qui se retrouvent en compétition sur certaines compétences, mais qui à mon sens, et nous le verrons dans les orientations, et j'ai cru comprendre que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé des assises des dépenses locales qui à mon avis vont mettre fin à ce débat-là très rapidement parce que un peu à la méthode Sarkozy, nous allons vivre la révision générale des politiques publiques qui va dire « toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais plus ça ». Mais si on continue à pouvoir laisser la place et aux communes et aux EPCI de pouvoir aménager leur statut et leurs compétences d'exercice, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose dans la réduction des finances publiques, c'est-à-dire sur l'équilibre intercommunalité et communes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que sur la question de l'absentéisme et sur la question des ressources humaines, je vais vous répondre. Comme la souveraineté du transfert relève du maire, qui affecte à la fois dans l'exercice un an avant le transfert de la compétence, la décision de l'affectation du personnel qui va partir avec la compétence, il y a eu dans les transferts bon nombre de personnes, et je le dis même si ça fait maintenant quelques années que je suis là, que je n'ai toujours pas vu à la communauté de communes, quand bien même ils étaient transférés, mais je ne les ai pas vus le premier jour du transfert, hein, M. Mossi. Et donc, j'ai posé longtemps la question de savoir s'ils étaient réellement dans les effectifs, mais telle était la cohérence du transfert. Le maire décide du personnel envoyé à la communauté de communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est un peu comme le système déclaratif des impôts, le transfert de la compétence. C'est-à-dire que cette belle commission locale d'évaluation des charges transférées, qui au passage ne prend pas en compte la communauté de communes, puisque les membres qui y siègent sont deux élus par conseil municipal, ce qui veut dire que les villes sont représentées, mais l'intercommunalité ne siège pas et n'a pas de voix délibérante dans l'évaluation des charges transférées. Et on observe, d'ailleurs Bolène ne fait pas exception, des évaluations de charges transférées assez originales, où nous avons des fois pas le fonctionnement, des fois un peu plus l'investissement, des fois pas du tout l'investissement, et puis est-ce qu'on va compter le camion poubelle, est-ce qu'on va compter l'agent qui était là, etc., etc. Et donc ça fait aussi des charges supplémentaires à la communauté de communes, qui était forcément financé sur des financements
directe de la communauté de communes et pas sur les financements qui étaient portés par les communes. Et donc, dans l'évaluation des charges, comme c'est un système déclaratif, et que c'est envoyé à la préfecture et que le préfet n'a pas de pouvoir, il n'a aucun pouvoir juridique sur l'évaluation des charges, puisque c'est un vote de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Comme c'est un système déclaratif, il se base sur les documents qui sont transmis par les communes pour évaluer les charges. Et donc, on se retrouve dans des situations où il faut peut-être plus de moyens humains, in fine, pour pouvoir gérer une compétence parce que le transfert n'a pas été bien géré dès le départ, et des compétences directes liées à l'exercice de la compétence que nous devons utiliser dans les caisses, puiser dans les caisses de la communauté de communes, parce qu'elles ont été sous-évaluées dès l'évaluation du transfert. Donc, entendez Madame Bompard qui, à part Joe Biden et Vladimir Poutine, nous a pas parlé de beaucoup d'autres choses, mais elle aurait pu d'ailleurs parler de l'Ukraine et d'autres considérations, ça nous aurait fait faire un petit vol. D'ailleurs, on se demandait si elle était toujours avec nous ou si elle cherchait un autre mandat électif dans d'autres sphères, tant elle a parlé de sujet, mais pas forcément de celui qui nous concerne aujourd'hui. Mais vous, vous avez été un peu plus terre-à-terre et donc je vais vous répondre sur deux autres sujets, la question du médical. Sur le médical, nous sommes saisis de cette question, parce que c'était une vraie problématique. Mais dès que nous en sommes saisis, dans la compétition des territoires, l'Agence régionale de santé, qui pilote à la fois les maisons de santé pluridisciplinaires, qui regarde les aides octroyées, puisque vous savez qu'il y a différentes zones, il y a les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire. Nous étions jusqu'à avoir plus de médecins, puisqu'il en restait deux sur le territoire, Bolénois par exemple, et quelques-uns qui étaient sur l'ensemble du territoire, et d'autres communes ont perdu des médecins. Nous sommes passés de zones d'intervention prioritaire à aujourd'hui, depuis un arrêté régional de l'Agence régionale de santé du 4 février 2022, en zone d'action complémentaire. Et la nuance est très importante, puisque la zone d'intervention prioritaire permet une aide de l'Agence régionale de santé de 50 000 euros à l'installation d'un médecin dans son cabinet, ce que ne permet pas la zone d'action complémentaire. Et comme nous sommes à l'interface de zones, où on se retrouve avec la Motte et la Palue dans des zones d'intervention d'Agence régionale de santé qui sont un peu plus gardoises, ou de Pont-Saint-Esprit, ce qui empêche d'ailleurs le maire de la Motte de récupérer des infirmières, parce que le Pont-Saint-Esprit et le Gard sont tellement dotés qu'on refuse l'installation des infirmières sur la Motte, parce que la Motte est dans la zone ARS gardoise, et on ne comprend pas la cohérence de ces zonages d'ARS qui font que même dans une communauté de communes, quand on met des moyens pour un pôle médical, on est dans différentes zones d'agences régionales de santé, qui fait qu'on ne peut pas accueillir comme on veut les praticiens. En ce qui concerne les maisons de santé pluridisciplinaires, bien évidemment qu'il n'y en a pas sur le territoire, et bien évidemment qu'il n'y avait pas d'accompagnement jusqu'ici, puisqu'il y avait eu le projet identifié du pôle médical intercommunal, il y avait une zone d'intervention prioritaire définie, des médecins sont venus, ils ont eu les aides, certains médecins sont intéressés par repartir, alors que nous avions financé ici en séance du matériel à hauteur de 20-25 000 euros, etc. Rassurez-vous, l'ensemble des contrats qui avaient été édités avec les médecins prévoyaient au prorata le remboursement des frais de matériel qui ont été faits. Ainsi, la docteure qui est partie dans la région un peu plus au sud a dû rembourser près de 17 000 euros sur le matériel médical qui lui avait été octroyé dans le cadre de l'application tout simplement du bail qui lui avait été fait là-dessus. Il y a un autre problème. Et d'ailleurs, je veux juste vous informer qu'il y a certains collègues, et c'est d'ailleurs l'incohérence du système, c'est-à-dire que désormais, on n'a plus de médecins, on a les maires qui se battent dans les compétitions de communes et de territoires pour avoir des médecins, et en même temps, on a des maires condamnés, pour avoir accompagné l'installation sur des territoires de professionnels médicaux, etc. Et on le voit partout, d'ailleurs, notamment dans le nord de la France, etc., etc. Donc on savait que ce monde devenait un peu fou, mais on ne savait pas qu'en aidant justement une offre pluridisciplinaire médicale pour soigner, et on sait combien, après mars 2020, il était important d'anticiper la question du médical, et nous l'avons fait bien avant que d'autres. J'en parlais avec mon collègue de Saint-Marcel d'Ardèche, qui lui a fait un bâtiment pour trois médecins. Aujourd'hui, il y a un bureau de tabac et il y a deux appartements parce que les médecins ne sont pas venus. Et donc l'incohérence de tout cela, c'est de faire en sorte de pouvoir, à un niveau qui nous dépasse, au même titre que celui de l'aspect législatif, de faire en sorte de prendre des mesures qui obligent et imposent à tous ces internes en médecine à venir un peu sur la ruralité de nos territoires et ne pas s'installer librement dans des pôles d'attractivité comme ils le font aujourd'hui aux alentours des facultés de médecine que sont les plus proches, Lyon, Montpellier et Marseille. Parce que sans ça, à part le numerus clausus qui se débloquera en 2036, si mes calculs sont bons, et que le rapport de force s'inversera, aujourd'hui nous sommes tributaires pendant encore 12 années, 13 années, de ce rapport de force où le médecin doit s'installer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en effet, nous devons revoir prochainement le personnel médical, les médecins du pôle médical, parce que elles veulent connaître l'avenir de ce partenariat que nous avons initié dès mars 2018, maintenant, dans la réalisation de ce pôle médical pour voir si c'est toujours opportun. Moi, je rappelle ce que j'ai toujours dit. Ce pôle médical, il doit être une impulsion au regroupement des professions médicales et en priorité, on l'a jamais caché, des médecins généralistes, parce que c'est de ceux-là que nous nous battons entre collègues élus pour faire en sorte qu'ils soient le plus présents sur nos territoires. Je partage votre avis sur le fait que même si un maire se voit dépossédé de certains médecins sur sa commune, c'est quand même moins regrettable de le voir à l'échelle d'un pays, d'un canton, d'un pays, quand je dis un pays, le pays bolénois ou le canton ou l'intercommunalité, de le voir garder et rester ici, plutôt que de le voir partir dans une autre région, dans un autre département et partir complètement du territoire. Mais c'est compliqué aussi d'expliquer à la population qu'on perd du moyen humain de profession médicale dans sa commune et qu'il faille aller loin, etc. Parce que tout le monde n'a pas la mobilité, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller. Donc c'est un vrai combat de territoire qui est un peu, là aussi, assez terrible parce que finalement, ce désengagement dans les dispositions de tous ces médecins qui sortent des facultés oblige les territoires à se battre entre eux. Parce que finalement, au moment où on se parle, si un médecin vient sur votre territoire, c'est qu'il a quitté un autre territoire. Et qu'il ne vient pas d'une autre voie, à part celle du prorata, du nombre de médecins qui sortent des universités. Mais comme il n'en sort pas plus que ce qu'il en faudrait, si aujourd'hui vous avez un médecin... Et donc, nous devons faire cette course à l'échalote, d'aller chercher des moyens, des hébergements d'internes, des abaissements de loyers, des prises en charge dans les loyers, etc., qui est, à mon avis, pas forcément compréhensible par tous, surtout quand on évoque la question de la profession de médecin et qu'on voit quand même les difficultés d'autres professions sur notre territoire et sur nos territoires là-dessus. Donc sur cette question des médecins, nous avons été au rendez-vous, nous le sommes encore, et nous faisons en sorte d'accompagner cela. Mais nous devons clarifier la position aussi du personnel médical, à savoir est-ce qu'ils vont se constituer en association de médecins, ce que je souhaiterais fortement, pour pouvoir continuer à avoir cet accompagnement qui permettrait justement de les accompagner dans le respect du cadre réglementaire. Sur la question de l'eau et les déchets, bon, mais j'entends votre proposition, j'ai bien compris qu'au travers de ce que vous avez dit, c'est un retour, ou enfin un aller vers la régie sur la question de l'eau et des déchets. Je serais un peu plus mesuré quant à l'impact de ces deux dispositifs dans les finances de nos collectivités, notamment sur l'eau et l'assainissement, monsieur Mossi, parce que dans l'eau et l'assainissement, nous ne partons pas tous de la même ligne de départ. Et quand je vois le patrimoine de chacune des communes, des cinq communes, en lien avec la question de l'assainissement, de quand est-ce qu'ont été faites les dernières infrastructures de stations d'épuration, de la qualité de nos réseaux dans le sous-sol, de la qualité de notre patrimoine, poste de relevage, pompe de relevage, canalisation, etc. Et au vu du nombre de délégataires qui se superposent au nombre de communes, je ne suis pas certain que si nous ne mettons pas d'accord aujourd'hui pour arriver à une date d'échéance qui permettrait de faire terminer tous les contrats de délégation à la même date, nous n'arriverons pas à dégager des économies puisque les contrats de délégation courraient même, quand bien même, la communauté de communes en serait gestionnaire. Elle récupérerait simplement les contrats de délégation de chacune des communes dans les dispositions et les conditions contractuelles qu'elle a pu que chacune des communes a pu souscrire en son temps. Donc je suis un peu plus réservé sur le assainissement, mais de toute façon le législateur n'a pas prévu, à moins qu'il y ait un coup de théâtre d'ici 2026, mais vous le savez, le législateur a prévu que la question de l'eau potable et de l'assainissement était de toute façon pris en charge par les EPCI de ce pays, quelles que soient les décisions qu'il faudra faire. Donc il nous appartiendra de faire ce patrimoine, de cet inventaire, et de voir ce qu'il en est par rapport aux recettes, parce que là aussi, il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà ce que vous avez dit. Alors, la conférence territoriale des professionnels de santé, la CTPS, elle se structure. Elle est aujourd'hui portée par Madame Blanquier et le docteur Marchand pour notre territoire. Ils devaient aller jusqu'à la partie drômoise de Pierrelatte, et puis finalement, je crois qu'ils ont revu un peu la copie. Il nous faut dans ce zonage de communauté professionnelle territoriale de santé une nécessité d'avoir un centre hospitalier. Donc il sera autour du centre hospitalier d'Orange et il viendra jusqu'à notre territoire. Nous sommes très au fait de ce sujet. Nous travaillons à faire en sorte que l'antenne à la fois des docteurs et des infirmiers soit portée sur notre territoire afin de maintenir cette médecine de ville par cet ancrage fort sur notre communauté de communes et cette médecine hospitalière en complémentarité sur le territoire orangeois. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre et que nous pourrions travailler ensemble là-dessus. Et en ce qui concerne, vous avez évoqué le manque de recettes, ça me donnera une bonne transition puisque Madame Bompard nous évoquait une hausse de 8% des recettes et nous avons dans le rapport d'orientation budgétaire prévu en effet de nouvelles recettes que nous évoquerons lors de la réunion des partenaires, notamment sur la question de la mobilité qui aura lieu le 14 mars dans cette salle, pour discuter d'une nouvelle recette qui est celle du versement mobilité. Vous le savez que nous avons cette fiscalité qui touche à la fois pas forcément notre territoire, parce que c'est les professionnels par rapport aux entreprises qui sont impactées. Et donc nous aurons l'occasion de débattre avec l'ensemble des partenaires sur la question du versement mobilité depuis que nous avons pris la question des transports. Bon, comme le disait un de vos collègues, Madame Bompard, tout ce qui est excessif est insignifiant. Il le disait lui-même hier soir et je lui rappelais qu'il aurait dû se l'appliquer à vous-même. Finalement, dans cette finesse d'analyse que vous nous dites, à part nous parler, le président de la République a changé d'avis sur la programmation nucléaire de ce pays. Je ne suis pas certain que vous ayez trouvé d'autres arguments si fins que ça. Et d'ailleurs, j'avais remarqué hier soir que je vous ai trouvé assez faible sur la question de l'analyse budgétaire. Et je vous trouve terriblement faible ce soir sur la question de l'analyse budgétaire, puisque vous n'avez pas regardé en détail ces orientations budgétaires, mais vous n'avez fait que survoler. Un peu de que ça monte, un peu que ça descend, un peu ci, un peu là. Voilà, c'est toujours pareil, ça fait 10 ans que vous dites la même chose, etc. Mais dans le détail, ce n'est pas tout à fait ça. D'abord parce que quand vous comparez 2014, chère madame, en 2014, nous avions 60% des compétences en moins que celles que nous avons aujourd'hui. Nous avons récupéré au 1er janvier 2017 énormément de compétences et avec les compétences, les charges à la fois générales, à la fois de personnel et à la fois de l'exercice de l'attribution de compensation qui s'est dégagé au travers justement de cette question de l'exercice des compétences, en particulier de la question des déchets, en particulier de la question du tourisme, en particulier de la question du développement économique et en particulier notamment de toutes les compétences qui sont arrivées après, notamment sur l'entretien des équipements scolaires, périscolaires, sur la question des voiries d'intérêt communautaire, sur l'aire d'accueil des gens du voyage, d'ailleurs, que vous en êtes d'ailleurs libéré bien avant le transfert de la compétence, obligation légale, puisqu'en octobre 2016, vous transfériez l'aire d'accueil des gens du voyage, alors que la compétence le prévoyait au 1er janvier, mais vous voyez, on a fait des efforts pour vous. En ce qui concerne les baisses de recettes, oui, je veux préciser deux choses, et je redis mon incompréhension de cette décision du président de la République que de supprimer définitivement et totalement cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur la question de la valorisation des entreprises, la CVAE, qui avait déjà été rabotée de moitié. Nous avions perdu 1,6 million l'exercice budgétaire précédent. Nous reperdons 1,6 million sur cet impôt cette année. C'est particulièrement injuste. Pourquoi ? Parce que d'abord, ceux qui contribuer dans cette CVAE ne demandait pas la suppression de l'impôt. Et donc, tous les groupes, et notamment les groupes qui sont dans cette typologie de recettes dans notre territoire, en particulier la question de la production de l'énergie, la question d'Orano, d'EDF et de l'ensemble de ceux qui créent de la richesse autour de la production d'énergie, ne demandez pas la suppression, mais même si les sénateurs avaient demandé une territorialisation de cette fiscalité parce qu'on observait quand même que la fiscalité de la CVAE n'est pas la même à Bolène que celle qu'on peut retrouver à Montluçon, à Vesoul ou ailleurs, parce que ça tenait compte de la typologie des entreprises. Aujourd'hui, la suppression de la CVAE va complètement supprimer le lien fiscal entre un territoire et les entreprises qui la composent. Et donc, il y a un risque énorme, d'abord, qu'il n'y aura aucun président de la République qui reviendra sur cette disposition. Je ne connais pas un élu président de la République qui reviendra créer de la CVAE pour essayer de compenser ces différences de territoire. La deuxième, c'est que dans 10 ou 15 ans, notre typologie de recettes fiscales sur cette compensation injuste de la CVAE ressemblera à celle de Montluçon, Vesoul ou de Montbéliard parce qu'elle sera déconnectée du tissu industriel de nos entreprises sur notre territoire et que les compensations qui sont faites par le gouvernement sont terriblement injustes parce qu'elles s'appuient sur une fraction de la dynamique de la TVA avec le FCTVA qui fait en sorte d'être payée par tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, vous payez cette fraction de la TVA, donc elle n'est pas solidaire, ce qui n'était pas forcément le cas de la CVAE, qui était payée que par des entreprises qui produisaient des richesses et donc de l'énergie. Donc c'est terriblement... voilà. Et enfin, le dernier, qui est encore plus injuste, c'est que la compensation qui a été calculée par le gouvernement pour venir compenser les collectivités s'appuie pas sur l'année qui aurait dû être gelée, comme ça avait été annoncé en première lecture à l'Assemblée nationale, mais sur la volonté de la Première ministre de remettre, après la deuxième lecture au Sénat, le fait d'utiliser l'année 2021, celle où nous avions déjà perdu 1,6 million d'euros. Donc dans la moyenne de la compensation, nous avons perdu 1,6 million d'euros dans les moyennes de compensation que nous avons reprises sur la fiscalité. Et c'est à ce titre-là que même si l'enveloppe ne tient pas compte de ces sujets-là, elle est profondément injuste parce que certes, le jeu de communication, en effet, est de dire que l'enveloppe de communication, je crois que c'est 800 millions sur le pays, est sensiblement la même, mais qu'elle ne tient pas compte et de la démographie, et je voudrais quand même que, puisque nous parlons des orientations budgétaires, nous parlions de la question de la démographie, comment nous financerons demain nos équipements, alors qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation, qui était la seule assujettie sur la démographie de nos territoires. Comment nous ferons demain quand nous aurons 1000 ou 2000 habitants de plus et que nous aurons une compensation gelée sur la fiscalité de la taxe d'habitation de 2017 sur des taux qui ont été gelés et qui n'évoluent pas en fonction de la démographie, puisse être pris en compte dans la question des infrastructures que nous devrons faire, des écoles, des voiries, des équipements, etc. Et enfin, la deuxième, c'est que cette CVAE compensée ne tient pas compte de l'inflation qui est quand même historique cette année, à entre 7 et 10% d'inflation, et cette CVAE ne tient pas compte, cette compensation de la fraction dynamique de la TVA ne tient pas compte de la question de l'inflation. Donc ni la démographie, ni l'inflation, ni désormais la relation entre la typologie d'entreprise et le lien fiscal. Donc demain, nous aurons des territoires qui seront sensiblement similaires, homogènes, que vous habitiez à côté d'une centrale nucléaire ou sur un plateau avec des terres agricoles. Ça, c'était le premier point sur les recettes, il est important. Enfin, vous dites que nous avons sensiblement les questions de charges, je ne sais pas ce que vous avez raconté, enfin, si 1 million de charges d'énergie supplémentaires pour vous, c'est dérisoire, 1 million d'euros de charges supplémentaires, c'est dérisoire, excusez-moi de vous dire que je comprends pourquoi vous aviez des difficultés à laisser filer la dette à hauteur de 18 millions d'euros à la ville de Bolène, quand 1 million d'euros pour vous n'est pas très important de ce que vous venez préciser, parce que je veux quand même rappeler que cet élément-là, qui nous porte d'un million à un million d'euros de charges supplémentaires d'énergie, vient impacter très lourdement nos charges. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que l'ensemble des charges à caractère général, comme les charges de personnel, sont à l'identique de l'année dernière, seulement ajoutées à la fois du dégel du point d'indice, qui nous apporte 300 000 euros de plus sur l'année 2023, 300 000 euros significatifs sur l'inflation, parce qu'il y a un poste quand même qui prend énormément, c'est la question du poste de l'alimentation qui connaît une hausse significative de près de 300 000 euros sur les charges liées aux denrées qui sont en constante augmentation depuis environ un an maintenant, et en plus de toutes les charges que nous avons sur ce sujet-là. Enfin, un mot sur la dette quand même. Parce que vous nous dites un endettement record. Alors, moi je veux bien qu'on nous parle d'endettement record, mais sur l'endettement record, aujourd'hui, il faut apporter du sens à la fois sur l'emprunt. Sur la question de l'emprunt, aujourd'hui, nous l'avons affecté à des charges d'investissement, de réalisation, qui sont liées à des investissements structurants sur l'avenir. Lorsqu'on crée une station d'épuration, lorsqu'on crée un centre de valorisation ou de déchetterie, comme nous l'avons fait à Mondragon, est-ce qu'il serait juste, et c'est la question que je vous pose, de faire porter la totalité de l'investissement en direct par une seule et même génération, en une seule et même année, d'un équipement qui va durer entre 30 et 35 ans. Mais je ne le crois pas. Et s'il y a un endroit où l'emprunt il est juste, c'est sur la programmation d'investissement qui dure sur 30 ou 40 années. Et je pense que personne nous reprochera d'avoir investi sur un centre de valorisation et une déchetterie et d'y avoir affecté un emprunt, parce que ce serait complètement illusoire que d'avoir fait porter un emprunt ou sans emprunt justement à une génération pour faire fonctionner cela. En revanche, c'est pour ça que je vous dis que votre finesse de tableau d'analyse n'est pas si fine que ça. Elle passe sous silence toute la partie la plus importante, c'est-à-dire pour qui et pour quel public nous réalisons des budgets. Il ne s'agit pas aujourd'hui de venir regarder des charges qui ne sont d'ailleurs pas comparables entre des exercices qui n'avaient ni les mêmes compétences, ni le même périmètre de compétences, mais de regarder pour qui nous le faisons. Et donc, avec notre majorité, avec la majorité intercommunale, nous sommes très fiers de faire en sorte que désormais la ville de Bolène reprenne une place dans ce paysage intercommunal, celle qu'elle n'aurait jamais dû perdre, pour faire en sorte de rentrer dans la danse qui permet justement à ces jeunes publics, à cette jeunesse, permettre la mutualisation des moyens, notamment à celle de l'entretien, au transfert du Lauzon au SMVL, parce que nous n'avons pas de techniciens rivière, du transfert de l'aire d'accueil des gens du voyage, parce qu'à deux personnels plus les travaux, bien évidemment que ça coûtait plus cher que ce que nous avons décidé, parce que même le nombre de personnels coûtait déjà plus cher que les travaux que nous réalisions dans l'air. Et donc ça s'appelle de la bonne gestion. C'est pas la question de venir, comme vous l'avez fait vous d'ailleurs, en vous séparant de l'aire d'accueil des gens du voyage à la communauté de communes bien avant la date du transfert, mais de venir justement faire en sorte de créer du sens sur les politiques publiques que nous venons de porter. Et donc en ce sens, nous sommes très fiers de pouvoir accompagner cette jeunesse sur le territoire, de pouvoir continuer à financer des infrastructures sur les communes qui sont aujourd'hui porteuses de fer. Et permettez-moi, chère madame, de rajouter que c'est la logique de l'intercommunalité que d'accompagner les investissements des communes, mais que quand vous aviez l'occasion de vous porter sur la communauté de communes pour porter des investissements, vous aviez fermé la porte. Alors, ce que vous disiez dans la majorité à Bolène et ce que vous dites aujourd'hui dans l'opposition de l'intercommunalité et dans l'opposition à Bolène, selon où vous vous placez, c'est pour ça que je vous disais hier que vous ressemblez sincèrement au chat, c'est-à-dire que vous retombez toujours sur vos pattes, que vous soyez d'un côté ou que vous soyez de l'autre. Et donc, l'autre jour, vous nous reprochez ce que vous faisiez. D'ailleurs, quand vous parlez des 24 millions en 2014, je veux juste vous préciser qu'en 2014, nous n'avions pas les compétences que nous avions actuellement et que par conséquent, vous reprochiez d'ailleurs à l'époque, à l'ancien président de ne pas dépenser. Quand nous dépensons aujourd'hui, Madame Bompard, quand nous avons des investissements pour le territoire, sur la jeunesse, sur la question de la GEMAPI, sur la question de la restauration collective, sur la question des écoles, sur la question de la voirie, sur la question des zones d'activité, je veux venir quand même préciser que nous allons faire ce que vous n'avez jamais su faire sur la zone ZACPA en Europarc. Vous promettiez 1000 emplois, vous n'en avez créé aucun. Sur la question de la voirie, vous n'avez absolument rien fait, à part transférer un chemin de la Levade parce que vous n'étiez pas en capacité de le gérer. Lorsque vous avez abandonné lâchement lâchement démissionné de votre mandat de maire sur les questions des écoles, des équipements sportifs, d'une piscine où il y avait des courants d'air avec des bloqués, des courants d'air avec des plaques de natation. Vous avez été un maire démissionnaire avant l'heure. Et donc, permettez-nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités, d'agir sans toucher à l'intégrité du contribuable dans le financement des politiques publiques, de maintenir un investissement à 5 millions d'euros, de maintenir un endettement qui est raisonnable en dessous d'une situation financière très satisfaisante. C'est pas nous qui le disons. C'est sur les seuils de ration des endettements, ce qui n'est pas forcément votre cas quand vous avez laissé la ville de Bolène. Et aujourd'hui, nous faisons, je dirais, aujourd'hui une politique qui répond aux besoins des habitants. Nous ne sommes pas dans des grands investissements pharaoniques comme vous savez les faire, ceux qui servent pas grand-chose au quotidien des gens d'ailleurs, parce que quand vous avez 2000 euros à mettre, vous avez plus l'argent, parce que vous avez mis 15 millions pour faire un pôle sur la route de la Palue. Oui, 13 millions. Non, c'est 15 millions, madame, mais les chiffres sont publics. 8 millions à la Cigalière, vous avez la salle Fanny Bertrand, l'anneau cycliste et la piste BNMX, anneau cycliste international qui, d'ailleurs, se fissure et il y a de l'herbe qui pousse dessus. Et je ne suis pas certain que ça fait très longtemps qu'il a été fait. Par contre, il a coûté très cher. Alors, chère madame, vous avez aujourd'hui construit des choses que nous devons assumer. Nous les payons. En plus de cela, nous portons des politiques publiques sur le territoire. Nous portons des politiques sur des publics que vous n'avez jamais accompagnés. La majorité est très très fière de créer des séjours vacances pour ces jeunes qui, ceux qui ont aujourd'hui 13 ans, sont jamais partis une seule fois en colonie du temps de votre passage parce que vous proposez absolument rien. Vous êtes que dans le déni et le dénigrement vous êtes que dans le dénigrement des autres et vous ne savez pas faire autre chose que de commenter et d'insulter ceux qui font. Voilà. Et donc moi je vous le dis, nous en sommes très fiers parce que d'abord nous ne faisons prendre aucun risque à la collectivité ni aux contribuables. Nous maintenons un investissement important dans un moment où nous devons accompagner et les entreprises et les créations de zones d'activité. La zone de la Clastre, la zone de la Croisière, la zone Notre-Dame, la ZACPA Europarc, et tout ce que vous n'avez pas su faire depuis de nombreuses années, nous sommes en train de le réaliser. En ce qui concerne les mutualisations, elles sont structurantes et importantes, parce que qui pouvait comprendre qu'on avait, entre la ville de Bolène et l'intercommunalité, deux sites techniques avec deux sites de lieux d'embauche qui coûtaient très cher aux deux alors qu'ils pouvaient être mutualisés sur le même site. Qui pouvait comprendre que quand on a une épareuse qui ne sert pas toute la semaine, il faille en acheter une autre pour des services techniques de l'intercommunalité avec deux chauffeurs pour deux rues différentes à 2 mètres les unes des autres. Personne ne peut le comprendre, à part la politique politicienne que vous aimez faire et la rancœur de la Ligue du Sud éternellement recyclée à chaque conseil communautaire parce que vous ne savez pas faire autre chose. Nous, aujourd'hui, nous portons l'avenir d'un territoire avec beaucoup d'ambition, certes, mais surtout pour faire en sorte que le territoire se porte mieux à la fin de notre mandat que quand nous l'avons pris. Voilà les seules missions que nous donnons à notre politique que nous menons très modestement. Parce qu'en effet, on ne peut pas se payer le luxe de dépenser plus que ce que nous gagnons. Et nous ne pouvons pas nous payer le luxe de faire des choses, comme vous savez les faire, très pharaoniques, dans un moment où tout le monde se serre la ceinture. Voilà ce que nous avons à vous répondre sur ces sujets-là. Et pour le reste, c'est de la littérature. Le débat d'orientation budgétaire est terminé. Et donc, je vous demande, Madame Bompard, vous avez eu la parole, et dans le débat, il faut veiller à ce que la personne puisse avoir pris la parole, vous avez pris la parole, largement, et donc par conséquent, le débat est terminé, la séance du conseil communautaire est levée, et je vous invite dans vos vidéos ou à la presse de faire tous vos commentaires possibles, la séance est levée, la prochaine vote du conseil communautaire du budget aura lieu fin mars. Très belle soirée à vous et à très bientôt.